Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous pour un nouveau numéro de Métropolez-vous. Il y a quelques semaines, nous avions évoqué dans cette émission la qualité de l'eau de la Garonne avec le directeur de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Avoir une eau de qualité dans nos fleuves et nos rivières dépend de plusieurs facteurs, entre autres du retraitement des eaux usées qui y sont rejetées. Ce retraitement est lui-même dépendant de la collecte des eaux et du bon fonctionnement de nos stations d'épuration. Tout ce processus forme un circuit complexe dont on ne connaît pas toujours toutes les étapes. C'est pourquoi nous avons voulu lui consacrer ce numéro afin de mieux cerner son organisation et en mesurer tous les enjeux. Ce sera donc notre sujet du jour. Comment sont collectées et retraitées les eaux usées de la métropole toulousaine ? Et comme nous allons parler d'une des compétences et des missions de Toulouse Métropole, c'est Aviv Zonabent, président de la commission eau et assainissement de Toulouse Métropole, qui est l'invité de Métropolez-vous aujourd'hui. Bonjour monsieur le président, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes également conseiller municipal de la ville de Toulouse, vous êtes en charge des relations avec les villes jumelées. Alors cette présidence de Toulouse Métropole pour l'eau et l'assainissement, vous l'occupez également depuis peu, parce que je crois que c'est votre premier mandat d'élu à la ville de Toulouse. Est-ce que c'est un domaine qui vous intéresse et que vous connaissez depuis longtemps, ou est-ce que vous en avez un peu hérité sans l'avoir cherché ?
Alors bonjour, ça fait plus de 25 ans que je suis inspecteur, je fais de la gestion de patrimoine chez AXA, mais précédemment, je travaillais au laboratoire de recherche de la SNPE sur la petite île entre les deux bras de la Garonne, et j'étais souvent interpellé par le service de l'eau sur les rejets à l'époque de perchlorate d'ammonium dans la Garonne, ce qui n'existe plus d'ailleurs. L'eau, c'est une notion de vie et mon maire Jean-Luc Moudin, quand il m'a délégué ça, il sait que je suis attaché à cette notion de vie.
Et après ces premières informations et cette petite introduction, place à l'information et à l'actualité métropolitaine. C'est le moment de retrouver Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Pour commencer ce flash d'informations du nouveau sur le front de l'innovation pour les sociétés qui œuvrent dans ce domaine, lors du Conseil de la Métropole ce jeudi, deux subventions en soutien au développement des startups seront proposées au vote.
Effectivement Eric, dans le cadre du pacte signé avec l'Université fédérale de Toulouse, la Métropole s'est fixée comme objectif de promouvoir l'entrepreneuriat étudiant. Pour cela, Toulouse Métropole versera 2000 euros à l'association des étudiants de Toulouse Business School Optimize pour l'édition 2018. De leur manifestation Start Me Up Weekend. Durant 54 heures non-stop du 23 au 25 mars, une centaine de participants formeront des équipes pluridisciplinaires pour inventer des produits ou des services innovants, accompagnés d'un plan d'affaires et correspondant à une réelle attente des consommateurs. La Métropole apporte aussi son soutien aux jeunes entreprises et souhaite octroyer une subvention de 3000 euros à Toulouse White Biotechnology, dont la stratégie est de baisser l'empreinte carbone.
La culture scientifique et technique est aussi à l'honneur. Alors que les vacances vont débuter, la nouvelle exposition annuelle du Quai des Savoirs ouvre ses portes ce vendredi 16 février.
Effectivement, coproduite par le Quai des Savoirs et le Muséum de Toulouse, Humain Demain est une exposition immersive et ludique, en lien avec les recherches actuelles qui doivent impacter le futur de l'homme dans les domaines du corps et de la santé. Elle permet de faire découvrir et tester les nouvelles technologies de pointe, mais également de sensibiliser aux questions éthiques qu'elles soulèvent. Rencontres, débats, ateliers et spectacles sont au programme de cette exposition qui s'inscrit dans le cadre de l'année 2018 où Toulouse, cité européenne de la science, accueillera l'Euroscience Open Forum, les OFF, pour la première fois en France.
Et vous avez jusqu'au 2 septembre pour découvrir Humain Demain au Quai des Savoirs, une exposition que je recommande chaudement. Une moins bonne note pour la métropole toulousaine. À l'heure du développement durable et de la protection de l'environnement, les Toulousains peuvent mieux faire dans ce domaine.
Oui, une bouteille en verre sur deux est recyclée par les habitants de Toulouse Métropole, un chiffre au-dessous de la moyenne nationale. Afin de combler ce retard, Toulouse Métropole et Eco-Emballage ont lancé fin 2014 un grand plan d'action. Objectif augmenter de 30% la quantité d'emballage en verre collecté en 4 ans, soit 4000 tonnes de verre supplémentaires à l'horizon 2018. En 2016, ce sont 414 conteneurs en verre supplémentaires qui ont été installés sur Toulouse Métropole, dont 360 rien que pour la commune de Toulouse.
Et toujours dans le domaine environnemental, après le verre, l'eau, Toulouse Métropole met à disposition des usagers des fiches pratiques pour vous aider dans votre consommation d'eau.
Elles vous permettent de mieux comprendre votre facture d'eau, de maîtriser votre consommation et de vous renseigner sur la qualité de l'eau, ainsi que sur l'entretien et la surveillance de vos branchements, par exemple.
Pour encore mieux comprendre, est-ce qu'on peut savoir comment l'eau potable est contrôlée ?
Le contrôle de la qualité de l'eau porte sur 60 paramètres qui permettent de connaître la composition physico-chimique de l'eau, le pH, la minéralisation, mais aussi d'analyser ses caractéristiques sensorielles, c'est-à-dire la couleur ou la saveur, ou encore de rechercher d'éventuelles substances toxiques, les métaux lourds ou les pesticides. L'Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées réalise le contrôle réglementaire de l'eau distribuée, mais vous pouvez vous aussi agir sur la qualité de votre eau en purgeant par exemple régulièrement votre ballon d'eau chaude.
Voilà, je voyais Vizonaven qui écoutait religieusement là, cette dernière information sur la consommation d'eau des Toulousains. Alors oui, quelques mots là-dessus, évidemment, ça vous concerne au premier chef.
Sur la qualité de l'eau, on fait en moyenne 1057 analyses sur le réseau, qui est confirmée à 100% dans sa conformité. Voilà, 1057 analyses. Je voudrais aussi intervenir sur le petit point faible de la collecte du verre. On est un petit peu peut-être en retard, mais on avance très fortement dans ce sujet, et vous l'avez dit. Par contre, ce que je voudrais rappeler, c'est que, d'un point de vue écologique, pour ne pas que les camions qui ramassent ces conteneurs de verre trop régulièrement, donc consommation de gasoil, de mobilité, de camions qui se déplacent sur la chaussée, etc., on a équipé ces conteneurs d'une petite puce GPS qui nous permet au 5/6e ou au 4/5e du remplissement du conteneur en verre de déclencher la venue du camion. Voilà, donc ça aussi, c'est point de vue mobilité, transport, déplacement des camions, voilà, un gain écologique fort.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces commentaires et toutes ces précisions sur l'actualité de la semaine. Nous allons maintenant poursuivre cette émission en revenant à notre focus de la semaine, comment sont collectées et retraitées les eaux usées de la métropole toulousaine.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, le focus de la semaine.
Métropolez-vous.
Seconde partie de Métropolez-vous avec notre invité Aviv Zonaben, conseiller municipal de Toulouse et président de la commission eau et assainissement de Toulouse Métropole. Avant de parler de la collecte et du retraitement des eaux usées, j'aimerais qu'on parle de cette compétence métropolitaine dont vous assurez la présidence de commission, parce qu'elle dépasse largement la seule question que nous abordons dans cette émission. Quand on parle de compétence de l'eau, est-ce qu'il faut comprendre le cycle de l'eau en général ? Quelles sont les différentes missions dont vous avez la responsabilité ?
Alors, je vais vous répondre, mais juste avant, je vais faire un petit parallèle. C'est que cette compétence de l'eau de Toulouse Métropole, il faut donc la comprendre sur la gestion du petit cycle de l'eau, à savoir l'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux usées et pluviales de ces 37 communes. Mais je fais juste une petite parenthèse. Quand ces canalisations pètent, on a vu ça un petit peu ces derniers temps à cause des gels climatiques,
du froid,
il faut réparer et refaire la chaussée. Donc je suis aussi vice-président de la commission voirie.
Oui, parce que les deux, évidemment, c'est lié. Hein,
en tout cas. Quand on répare les canalisations en sous-sol, après, il faut refaire la route.
Alors les missions vraiment de la commission eau et assainissement, au-delà de la collecte et du retraitement des eaux usées, il y en a d'autres.
Oui, donc pour la compétence eau potable, par exemple, Toulouse Métropole a pour mission d'assurer la production et la distribution d'eau potable aux abonnés des 37 communes. Donc la production dépend principalement de quatre usines de production, Clairefonds, Pêche David, Tournefeuille et La Courte-en-Sour. Et ces quatre usines sont complétées par des achats d'eau auprès de collectivités voisines, de syndicats d'eau. La distribution est ainsi assurée par 3300 km de réseau. On a aussi 58 réservoirs et ça correspond à peu près à 50 millions de mètres cubes qui sont mis à distribution en moyenne chaque année. Donc la compétence assainissement collectif, pour parler aussi de l'eau potable, c'est la collecte des eaux usées, c'est l'acheminement de ces eaux usées jusqu'aux ouvrages de traitement. Donc dans ces ouvrages, c'est le traitement des eaux usées en éliminant des boues et des sous-produits issus de l'épuration des eaux usées. Donc vous comprenez, les boues, c'est tout ce que vous retrouvez dans vos WC, etc. Le rejet des eaux traitées en milieu naturel et le suivi de leur impact sur le milieu, la gestion des usagers du service, la facturation et le traitement des demandes. Le service assainissement collectif doit être en mesure d'assurer la continuité du service afin de garantir la salubrité publique et bien entendu aussi la préservation de l'environnement. Donc la métropole, elle assure également la collecte des eaux pluviales. C'est un réseau de un petit peu plus de 2000 km et peut-être une bonne nouvelle pour vos auditeurs, sur ces 2000 km, il y en a 147 km qui sont visitables. Nous adresser une demande, on organise des petits groupes et on descend dans les égouts de la ville de Toulouse, des eaux pluviales, et on visite. C'est merveilleux à voir, c'est très architectural, c'est de la brique, c'est voilà. Sur les 147 kilomètres, il y en a plus de la moitié où on marche debout, ne vous inquiétez pas.
Oui, oui, mais il y a surtout des constructions qui sont anciennes d'ailleurs dans ce réseau.
Tout à fait, il y a des
encore un aspect patrimonial un petit peu, je pense.
Exactement, c'est un beau patrimoine que moi je l'ai visité une fois, pas sur les 147 kilomètres. Voilà, mais le réseau de métropole, il faut le dire, il est strictement séparatif, ce qui signifie que les eaux usées et les eaux pluviales ne sont pas mélangées.
Pas, voilà, d'accord.
Voilà, donc quand vous visitez les canalisations d'eau pluviale, vous ne tombez pas sur les excréments.
Je vois ce que vous voulez dire. Donc il y a 2000 km hein, de réseau, c'est ça
Un petit peu plus, à 2070 km. Et vous pouvez en visiter plus de 140 km.
Qui en assure l'entretien là? Ce sont des équipes métropolitaines ou des équipes des communes sur lesquelles passe ce réseau?
Alors la compétence est métropolitaine. Maintenant, il y a un partage des responsabilités en fonction des concessions, etc.
Et les stations d'épuration, il y en a, je crois, une dizaine en tout, la plus connue étant Ginestoux, bien sûr, mais il y en a ailleurs dans la métropole.
Hein. Oui, donc on a 17 stations d'épuration, ouais. Dont celle de Ginestoux-Garonne. Elle est d'une capacité de près d'un million, 950 000 équivalents habitants, qui assure ensuite le traitement de ces eaux. Le rôle des stations d'épuration, c'est de dépolluer les eaux pour les rendre compatibles avec le milieu naturel.
Sans les citer toutes peut-être, où sont les autres stations d'épuration sur le territoire métropolitain?
Les principales, ce sont les usines d'eau potabilisation, c'est Clairefonds, c'est Pêche-David, c'est Tournefeuille et c'est la Courtensourd.
Comment ça fonctionne? Par exemple, Ginestoux, qui est la plus connue et la principale, est-ce que c'est une régie municipale? Est-ce que c'est externalisé vers des sociétés privées? Bon, on sait qu'il y a Veolia derrière, mais en fait, comment sont réparties la propriété et la gestion?
Alors, il y a un petit peu plus de 25 ans, donc on a fait une délégation de service public à Veolia. Donc Veolia est en charge de tout, contractuel, c'est-à-dire sous nos indications, sachant aussi, et je le répète parce que ça, ce n'est pas su de nos citoyens toulousains, le patrimoine enterré que Veolia gère dans ses rénovations, maintenances, etc., et la propriété de la métropole depuis peu, donc de la mairie de Toulouse jusqu'à il y a un peu. Sachant aussi que on a des impératifs forts que l'on donne dans cette délégation de service public à Veolia. Par exemple, à fin 2017, il n'existera plus aucun tuyau en plomb pour éviter tout ce qui est lié au saturnisme, etc.
Saturnisme.
Voilà, donc ça, c'est un élément fort de la rénovation de nos réseaux que l'on impose à notre délégataire.
Ils vont être en quoi alors les tuyaux après? Si c'est plus du plomb, ça va être quelle matière?
Ça dépend de la taille des tuyaux, c'est soit des plastiques, soit des fontes, en fonction des canalisations. Quand c'est du particulier, c'est souvent du plastique. Quand c'est des réseaux qui alimentent des grosses entreprises, hôpitaux, etc., c'est souvent de la fonte.
Si on parle un peu chiffres maintenant, la quantité d'eau usée à collecter et à retraiter chaque année au niveau de la métropole, est-ce qu'on a des chiffres assez précis là-dessus? Et peut-être plus encore, est-ce qu'on a l'évolution des dernières années?
Je ne vais pas vous le donner par usine, je vais vous le donner dans sa globalité sur l'ensemble de la métropole.
Oui.
Je peux vous donner un débit moyen journalier, c'est du mètre cube par jour. Une référence en 2013, par exemple, Ginestoux, c'était 113 400 mètres cubes d'eau par jour et la métropole, c'était 146 629. Ça veut dire quand même que Toulouse, dans la métropole, en consommation, en rejet d'eau usée, pèse un petit peu plus de 67% de toute la métropole.
C'est les deux tiers, oui.
Voilà, ça c'était 2013. Donc, j'ai pas encore les chiffres 2016 qui sont en train d'être décryptés informatiquement, etc. Mais 2015, par exemple, on passait de 113 456 à Ginestoux, on passe à 105 000 mètres cubes jour, ce qui fait sur toute la métropole 131 000 au lieu de 146 000 en 2013.
Donc ça a baissé, la tendance est à la baisse, malgré une population qui augmente.
La population augmente, ça c'est une des merveilles de la ville de Toulouse. Toulouse est une des villes françaises qui gagne le plus de nouveaux habitants.
Mais donc malgré l'augmentation de la population, si j'ai bien compris vos chiffres, la consommation, en tout cas la collecte, pardon, le retraitement des eaux usées, est en baisse.
Et la consommation d'eau aussi.
Aussi, ce qui est quand même bon signe. Ça veut dire que les Toulousains, les métropolitains, seraient de plus en plus économes de l'eau?
Ils ne sont pas que économes de l'eau, ils sont aussi bien éduqués. je reprends l'exemple de Ginestous, même si c'est une délégation de service public, même si c'est chez Veolia, l'usine de Ginestous, c'est une usine aussi pédagogique. Elle est labellisée ISO 20001, hein, quelque chose comme ça. Et elle sert aussi d'enseignement pédagogique. Elle reçoit régulièrement des écoles sur lesquelles on les forme, on leur explique, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, bah, je prends l'exemple de la douche. Quand vous vous douchez, vous aviez, il y a 20 ans, un jet d'eau fort avec beaucoup d'eau pour bien vous rincer le savon, etc. Aujourd'hui, on vous donne le même pommeau de douche sur lequel va arriver une grosse quantité d'air qui va diminuer des deux tiers la quantité d'eau, qui va pas vous désavonner plus lentement, qui a le même effet, mais avec deux tiers en moins d'eau. Okay. Voilà. Et puis, dans toute cette logique, on s'aperçoit aussi qu'il y a une prise en compte de cette notion que l'eau va devenir rare. On pourrait parler de l'étiage de l'eau à l'horizon 2050.
Oui, de la Garonne. Oui.
Voilà, l'étiage Garonne-Ariège. L'étiage, c'est le niveau d'eau. Pour être moins technique, le niveau d'eau, dans les prévisions météorologiques, écologiques, baisserait de moitié. C'est-à-dire qu'on aurait deux fois moins d'eau en Garonne et en Ariège.
Oui, quand on voit déjà le niveau de la Garonne à la sortie de l'été depuis quelques années, qui est de plus en plus inquiétant, si c'est deux fois moins, bon, ça fait un petit peu peur quand même. Hein. Le coût du retraitement des eaux usées, on sait que ça coûte cher de dépolluer l'eau. Est-ce qu'on a une évolution de ce coût par habitant? Parce que je pense que c'est ça vraiment le bon indicateur. Est-ce que c'est plutôt à la baisse, ça, ou est-ce que ça coûte de plus en plus cher de retraiter, de dépolluer l'eau?
Alors, dépolluer l'eau va coûter de plus en plus cher pour plusieurs paramètres, qui sont d'abord la diminution de moitié de la quantité d'eau qui servirait à dépolluer, à diluer les matières premières, qui va venir aussi par le fait que on a des contraintes réglementaires
énorme,
de la communauté européenne,
oui, énorme,
qui sont de plus en plus strictes. Regardez l'effet diesel avec les voitures. Et sur l'eau, c'est pareil, les contraintes sont de plus en plus resserrées. Et puis aussi parce que, dans une vision sociale humaine des choses, l'hospitalisation à domicile va être multipliée par 10 dans les années à venir. Et autant les hôpitaux aujourd'hui gèrent très bien les rejets médicamenteux, autant pour les particuliers, ce sera beaucoup plus dur, donc il y aura beaucoup plus de rejets médicamenteux dans l'eau à traiter.
Oui, alors ça justement, c'était une des questions que j'allais poser. Dans les eaux usées, quels sont les principaux polluants, les principaux composants qu'on doit retraiter? Bon, moi je pensais évidemment, il y a les rejets organiques qui doivent être la grande majorité, mais il y a aussi sans doute un peu toutes les molécules de détergent. Et puis il y a cette nouvelle forme de pollution, qui est la pollution médicamenteuse, qui est un peu plus insidieuse, dont on n'a pas forcément conscience, mais qui suscite quand même quelques inquiétudes pour l'avenir.
Oui, on va pas rentrer dans les détails parce que ça inquiéterait nos auditeurs, mais grosso modo, de plus en plus de rejets liés à des hormones féminines, l'effet pilule, qui est accéléré, qui est amplifié par l'effet des solvants. Les solvants, ce sont les pots d'échappement qui relarguent leurs microparticules sur la chaussée. Et avec les orages de plus en plus forts, ces lavages se font de plus en plus forts et se créent de nouvelles molécules qui sont la réaction entre ces solvants et les progestérones féminines qui viennent de la pilule. Et ça féminise les eaux, ça interpelle. Ça interpelle au point que depuis quelques années, on s'aperçoit que la fertilité du sperme de l'homme occidental a baissé de 67% et qu'on a de plus en plus recours à de la procréation in vitro et compagnie.
On voit même que les poissons de nos rivières n'ont plus vraiment de sexe, sont hermaphrodites. Bon, ce qui prouve qu'il y a quand même quelques inquiétudes à avoir dans ce domaine. Et donc, il faut dépolluer ces eaux. C'est pour ça qu'entre autres, ça risque de coûter de plus en plus cher, parce que je suppose que c'est plus complexe.
Alors, les effluents de la métropole, ils sont très majoritairement des rejets domestiques.
Oui.
Donc, c'est très peu d'usines.
C'est les particuliers essentiellement.
Voilà. Hein, ouais. Voilà, c'est 83%, ce sont des particuliers. Ce sont des pollutions organiques et des matières en suspension qui correspondent à l'ensemble des particules minérales et ou organiques présentes dans une eau naturelle ou polluée. Les effluents sont également chargés, ça je voudrais le rajouter, en azote et en phosphore. Donc après, je ne sais pas si on doit parler de cette vision Smart City de la ville de Toulouse. Toulouse est labellisée French Tech, c'est une smart city en devenir, c'est-à-dire c'est une ville qui va devenir intelligente. Intelligente avec les nouveaux moyens de communication. Nous allons donc équiper, j'en parlerai un petit peu après, donc de télérelèves sur tous nos compteurs d'eau. Mais ce que je veux dire sur les micropolluants, etc., on retrouve de plus en plus, c'est fort dans l'urine des gens, des usagers. Il faut comprendre que 83% des rejets viennent des particuliers, on retrouve de plus en plus d'azote et de phosphore. Alors le phosphore, c'est un minéral qui est de plus en plus cher et de plus en plus rare, qui est de plus en plus utile dans tout ce qui est numérique, carte à puce, etc. Et Toulouse, qui est en pointe sur ses devenirs, sur cette notion de ville pilote dans bien des domaines, l'est aussi là-dessus. On vient de signer une charte avec le CNRS sur la recherche du phosphore dans les urines. Donc ça peut nous amener à réfléchir demain, dans un an, dans deux ans, plutôt dans dix ans, à faire des WC avec deux capacités de captage. Quand ce sont les gros besoins, ça va dans une canalisation. Quand ce sont que des urines, ça va dans une autre canalisation sur laquelle on déshydratera.
Le retraitement sera différent.
Et on récupérera le phosphore et l'azote.
Une autre question, mais qui revient à un sujet qu'on aborde souvent dans cette émission. Avec la hausse de la population dans les années à venir, à Toulouse et dans la métropole en général, on peut donc s'attendre à une augmentation, a priori en tout cas, des eaux usées à retraiter. Est-ce que cela suppose que ça va nécessiter une extension de Ginestou, voire la construction de nouvelles stations d'épuration dans la métropole et donc de gros investissements?
Alors bien sûr, c'est une réflexion qui n'est pas encore aboutie, mais on est tout à fait conscient du problème. Donc on est en train de voir, de réfléchir, on s'appuie sur différentes assistances à maîtrise d'ouvrage. Ce sont des cabinets de conseil juridique, un technicien, etc., de réflexion, qui vont nous apporter une réflexion forte sur plusieurs points. Mais sur les investissements à venir, il faut comprendre qu'on est aussi en pointe sur d'autres domaines. Par exemple, sur le coût énergétique, on a lancé par exemple un méthaniseur. Un méthaniseur, j'explique au départ, on a des eaux usées qui, quand on les décante, quand on les filtre, qui donnent des boues. Ces boues, jusqu'à maintenant, elles sont incinérées. L'usine d'incinération, vous la voyez, la grande cheminée qui est vers le Mirail, là-bas. Et on voit donc de la pollution dans l'air et on paye une taxe carbone parce qu'on envoie de le... Donc on a décidé... Le projet est quasiment abouti, on va lancer les appels d'offres incessamment sous peu, la réflexion est faite, on va lancer la construction d'un méthaniseur qui va diminuer de 40% les boues, déjà, qui va récupérer, donc on va faire fermenter ces boues, et on va récupérer la fermentation de ces boues qui sera du méthane, et ce méthane, eh bien, au lieu de l'envoyer dans l'atmosphère et de payer une taxe carbone, on va lui donner une vision très écologique. C'est un projet vers une usine vertueuse sur le plan énergétique. C'est l'objectif de tendre vers une station d'épuration autotherme ou à énergie positive via de la production d'une énergie verte, renouvelable, réutilisable, optimisée sur des énergies. De point de vue économique, elle permettra de réduire donc de 40% au minimum les quantités de boue à traiter, à évacuer, donc 40% de moins d'odeurs olfactives gênantes pour les usagers du secteur autour de Ginestou. Ça permettra d'abord d'auto-alimenter, d'auto-satisfaire la production de ces usines qui ne consommeront plus d'énergie autre. Et avec le surplus qui sera encore important, on générera, on a plusieurs visions, mais par exemple, on va monter une station de gaz pour équiper tous les bus TCO de la ville de Toulouse ou de la métropole qui seront équipés au gaz de ce méthaniseur, donc consommation zéro, récupéré entièrement.
Donc beaucoup d'investissements et une réflexion générale, comme vous dites, pour un cercle vertueux, un cycle vertueux en tout cas, et la récupération le plus possible de toutes ces énergies potentielles. Mais merci beaucoup pour votre venue et toutes ces précisions à Vivzonabend. L'eau et sa qualité sont un enjeu majeur du siècle en cours, y compris pour un pays comme la France et donc une métropole comme Toulouse. C'est pourquoi le bon fonctionnement de la collecte et du retraitement des eaux usées est capital pour l'avenir. C'est un processus complexe, vous avez pu le voir, coûteux, dont il faut connaître les rouages pour comprendre le rôle que nous autres citoyens pouvons y jouer aussi. J'espère que cette émission vous en aura convaincu et que vous en savez un peu plus maintenant sur le sujet. Pour avoir une vision complète de l'action de Toulouse Métropole dans ce domaine, vous pouvez consulter son site web www.toulouse-métropole.fr à la catégorie Mission Eau Assainissement. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.